Les rivières au micro. Avec l'écho de l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Julie de la Fédération de pêche du Gard et vous écoutez l'écho de l'eau sur Radio Alliance Plus. Aujourd'hui, on va faire comme si nous étions le 2 février, pour célébrer quelque chose de bien particulier. Alors, à cette date, c'est la Chandeleur. Mais même si je raffole des crêpes, il n'y a pas vraiment de lien pour que je vous en parle dans cette émission. Non, cette date, c'est une date symbolique, pour inciter à parler et sensibiliser sur le sujet du jour, qui concerne l'eau, bien évidemment. Et pour vous embarquer avec moi, j'aimerais que vous vous imaginiez. Vous êtes là, dehors, en fin d'une belle journée ensoleillée. Les lueurs du soleil se reflètent dans l'eau devant vous. Les oiseaux chantent, quelques grenouilles commencent à s'activer. Tout est calme, vous êtes bien. Maintenant, si je vous dis zone humide, qu'est-ce que vous voyez ? Il se peut fortement que des images de moustiques, une ambiance chaude et d'eau croupie vous aient apparu. Et vous n'êtes pas seul. On perçoit souvent les zones humides comme des milieux insalubres et inutiles, alors qu'au contraire, elles sont source de vie. Si bien qu'aujourd'hui, on cherche plutôt à les restaurer. Vous avez bien entendu, aujourd'hui, on va parler zones humides. Bon, pour commencer, une petite définition s'impose. Parce que c'est quoi concrètement une zone humide ? Telle que définie dans le Code de l'environnement, rien que ça, une zone humide, c'est un terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau, qu'elle soit douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. Je vous l'accorde, on peut difficilement faire plus vague comme définition, parce que ça regroupe du coup beaucoup de milieux détrempés. Mais oui, une zone humide ne caractérise pas qu'un seul type d'écosystème, mais bien une diversité de milieux. Et vous en connaissez ? Si je vous dis mare, étang, lagune, marais ou encore mangrove, tout ça constitue des zones humides. Et bien sûr, nous avons la plus grande zone humide d'Europe, que tout Gardois connaît, mais sans vraiment se rendre compte de son importance, j'ai nommé la Camargue. Parce que oui, la Camargue, ce n'est pas juste un super spot pour observer des flamants roses, c'est une méga zone humide au fonctionnement particulier qu'il faut préserver. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je vous parle des zones humides et est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Eh ben, oui. Parce qu'il y a beau y en avoir une diversité et de partout, ces milieux sont très méconnus par les citoyens qui ont tendance en plus à mal les percevoir. D'ailleurs, elles ne sont pas si partout que ça, puisqu'on estime aujourd'hui que 87% des zones humides mondiales ont littéralement disparu. Oui, ça fait beaucoup, et rien que dans le bassin méditerranéen, ça s'élève à 56%. Parmi les causes, encore une fois, l'homme n'y est pas pour rien. Il y a eu notamment des politiques d'assèchement massif de ces zones, sous prétexte que la terre n'y était pas utile, voire même que ces milieux étaient dangereux pour la santé humaine. C'est vrai que sur un sol souvent saturé en eau, il est compliqué de cultiver certaines céréales, surtout dans un contexte d'agriculture intensive. Pourtant, on sait aujourd'hui que les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus productifs au monde, avec leur sol riche en nutriments et en eau. Mais cet atout, si je puis dire, n'est rien comparé aux nombreux autres rôles que jouent les zones humides. Tous milieux naturels ont ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ce sont des bénéfices à la société humaine que fournissent naturellement les écosystèmes. Bon, c'est un peu anthropocentré comme vision, c'est-à-dire qu'on place l'homme au centre de tout, mais ils servent justement à donner du sens à la conservation de la nature qui est dans l'intérêt de l'homme. Et les zones humides, c'est un peu la masterclass à ce niveau-là. Déjà, elles régulent le cycle de l'eau. Vous savez, le cycle qui explique que les pluies et neiges qui tombent sur les continents apportent de l'eau douce dans les rivières qui s'écoulent jusqu'à la mer et les océans sur lesquels se forment les nuages chargés d'eau, etc., etc. Là-dedans, les zones humides jouent un rôle d'éponge. Elles captent et stockent l'eau lors de précipitations ou de surplus hydriques et la relâchent en période de sécheresse. C'est notamment ce mécanisme qui favorise la recharge des nappes phréatiques qui, je vous le rappelle, nous sert d'eau potable. Donc, il faut idéalement laisser de la place aux zones humides et ne surtout pas les imperméabiliser pour que les eaux de rivière puissent s'étaler et ainsi alimenter nos nappes. En plus des plongées, les zones humides filtrent en captant les polluants et matières en excès grâce aux nombreuses plantes qui se servent au passage de l'eau dans leurs racines. Et avoir ça avant que l'eau s'infiltre dans le sol, c'est quand même bien utile. Les zones humides stockent également du carbone. On a bien évidemment les forêts qui, on nous le rappelle assez souvent, participent grandement à la régulation du CO2 dans notre atmosphère, mais les zones humides sont en fait plus efficaces. Connaissez-vous d'ailleurs les tourbières ? Pour les amateurs de jardin, oui, c'est de là que vient la tourbe, un sol riche en carbone et en nutriments que les plantes raffolent. Mais pour autant, les tourbières ne représentent que 3% des terres émergées de notre planète. Et dans ces petits 3%, oui, on en a en France, et même pas qu'un peu, normalement. Eh bien, ces tourbières, peuplées de sphaignes et de fougères, renferment à elles seules 30% du stock mondial de carbone présent dans le sol. D'après une étude du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, les tourbières stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde. Si ça, c'est pas un super pouvoir. Et attendez, on n'a pas encore parlé biodiversité. Les zones humides sont de manière générale des réservoirs de vie. Les espèces de plantes y sont uniques, puisque ce sont des milieux fortement contraignants. Tantôt sous l'eau, tantôt au sec, certaines fois sous conditions apoxiques, c'est-à-dire sans oxygène, l'évolution naturelle y a développé toute forme de stratégie pour que des plantes puissent trouver leur place dans ces environnements très particuliers. Sans parler du règne animal, puisqu'en France, 100% des amphibiens et la moitié des oiseaux menacés dépendent directement de ces milieux. Je ne vous évoque même pas le cas des poissons, puisque de toute évidence, sans eau, on ne les retrouverait même pas. Mais je vous vois venir là, vous les plus sceptiques. Vous allez me dire, et le moustique dans tout ça ? Oui, je vous l'accorde, le moustique est un habitant fidèle des zones humides. Si bien qu'avant qu'on fasse le lien entre une piqûre de moustique et la maladie du paludisme, on croyait jusqu'au 19e siècle que c'était l'air ambiant qui rendait malade. C'est d'ailleurs de là que vient le terme paludisme, puisque le mot « palu » signifie tout simplement « marée » en vieux français. Mais si les moustiques nous ennuient, ils sont pourtant à la base de l'alimentation de nombreuses espèces animales, comme les poissons, les grenouilles ou encore les hirondelles et les chauves-souris. C'est pourquoi, dans une mare ou un autre écosystème équilibré, les moustiques sont généralement vite mangés par leurs prédateurs naturels. Donc, préserver une zone humide, ce n'est pas simplement vouloir favoriser le moustique ou inonder des terres agricoles, c'est une nécessité. C'est un besoin vital pour des espèces animales et végétales qui y dépendent, mais également un besoin vital pour nous, humains, en laissant de la place à de la nature et faire en sorte qu'elle nous le rende bien. Actuellement, les zones humides ne sont pas simplement des environnements à enjeux écologiques qu'il faut mettre sous cloche. Ce sont des lieux de vie et de mémoire. Leur avenir dépend donc de la capacité aux citoyens et acteurs locaux d'avancer ensemble pour préserver et sauvegarder la fonctionnalité des écosystèmes. Avant de marquer la fin de cet épisode, j'espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir fait un peu changer de regard sur ces milieux qui ne sont pas juste inondés. Si ce n'est pas le cas, peut-être que la fibre artistique réussira là où j'ai échoué, car de nombreux peintres trouvent leur inspiration dans les zones humides, que cela soit dans les couleurs, l'ambiance ou tout simplement la beauté des paysages. Je vous laisse aller voir le travail du français Félix Yem ou Aldo Léopold, qui sont pour le coup bien plus doués que moi pour ça. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez dès à présent le réécouter en podcast sur le site de Radio Alliance Plus. Moi, en tout cas, j'ai adoré aller vous chercher des petites anecdotes et comme le dit si bien notre agence de l'eau, véritable rein de la nature, une zone humide, ce n'est pas de l'eau sale qui stagne, ce sont des zones où l'eau se nettoie toute seule et travaille silencieusement.